Bien, merci. Alors, je vais faire une introduction. Rassurez-vous, ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre. D'ailleurs, je vous ai assez, sans doute, saoulé ces derniers temps. Donc, une introduction brève, écrite quand même, mais brève. Villeurbanne, en avril 2011, donc maintenant, une exposition photo, place de la mairie, qui est proposée par Médecins du Monde, qui est consacrée aux sans-papiers en Europe. Il y a trois phrases par photo, une sorte de grande boîte en bois dans laquelle on nous propose d'entrer pour nous faire supposer, imaginer, vivre le sort des sans-papiers. Rwanda, 1994, les écrits de Jean Hartsfeld livrent des récits appuyés sur des témoignages de Tutsi, que vous avez pour certains lus. Ces récits obtiennent en France, au moins et très vite, un succès qui tient sans doute beaucoup plus à la question du témoignage de ces victimes qu'à celle de la politique coloniale de la France. Et enfin, Hiroshima, 1945. Là, je cite Kenzaburo Oe qui dira à propos de la catastrophe actuelle du Japon « Nous sommes sous le regard des victimes ». Et il écrit dans un texte qui est paru, alors il est cité dans un texte paru dans « L'écriture de soi peut-elle dire l'histoire ?» colloque de la BPI en 2001. Pour dire les choses très franchement, sur cette terre, tout le monde, sans exception, tente d'effacer complètement de sa mémoire Hiroshima et l'absolue tragédie qui s'est produite en ce lieu. Donc à l'heure où la légitimité, l'identité passe aussi parfois par la médiatisation, par la scène télévisée, Evelyne, par les captations vidéo, par le téléphone portable, à l'heure où le témoignage devient friable, où l'archive, parce qu'elle devient numérique, a un avenir plus que risqué, plus aléatoire, et je reprends ici l'expression que je trouve très outrancière de François Bon, qui est intervenu il y a une grosse semaine, qui dit, et je n'ai pas voulu l'interrompre parce que sinon je pense qu'on en avait encore jusqu'à 21h, hein, on n'en a rien à fiche de ce qui a disparu. Eh bien non, on n'en a pas rien à fiche de ce qui a disparu, même s'agissant des fausses théories mathématiques. Et c'est bien précisément parce qu'elles sont encore accessibles sous une forme simple, pratique, le papier, qu'elles restent encore sous forme lisible. Donc la question du témoin, de l'écriture de soi, est pendante, elle est mouvante, elle est terriblement actuelle. Et pour évoquer cette question, nous avons demandé, enfin, Christelle a demandé à Annette Vievorka, qui est professeure, agrégée d'histoire, directrice de recherche au CNRS, et qui a publié un certain nombre de textes, dont je cite volontairement quelques-uns, c'est-à-dire quatre. Ils étaient juifs, résistants communistes, Le procès Eichmann, L'ère du témoin, et le dernier paru, Maurice et Jeannette, d'interroger cette question du témoignage et du lien avec l'histoire d'une part et avec l'écrit d'autre part. Vous dites dans l'ère du témoin, le génocide des Juifs est devenu en quelque sorte le paradigme de la construction de la mémoire. Et je pense que c'est un peu autour de cette phrase que j'ai envie de vous laisser la parole, sachant que j'ai au moins 55 questions derrière qui peuvent suivre.
Ils étaient juifs résistants communistes, qui était un ouvrage, j'en reparlerai, fondé uniquement, principalement, sur des témoignages oraux, se passait partiellement à Villeurbanne, puisque les FTP de la main-d'œuvre immigrée avaient été les acteurs principaux, c'est du moins ce qu'ils disaient. Peut-être que quand on reviendra sur cette histoire avec des archives, on trouvera quelque chose de différent de l'insurrection de Villeurbanne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de tenter d'expliquer comment j'ai travaillé depuis tant d'années, puisque je considère que maintenant mon œuvre est largement derrière moi, et essayer de réfléchir un peu, puisque nous sommes à l'ENSIB, dans une école qui forme des bibliothécaires, à qu'est-ce que c'est pour un historien le témoignage, le livre, l'archive. Alors j'essaierai de résumer d'abord notre travail, notre métier. Et je dirais, c'est assez banal, les historiens m'en excuseront, Evelyne en particulier, que le travail de l'historien consiste à construire un récit du passé à partir de ce que le passé nous a légué, ce qu'on appelle dans notre jargon les sources, qui sont des traces. Le problème que vous avez soulevé de la numérisation, c'est un problème qui s'inscrit dans une situation actuelle qui est que les traces sont de plus en plus surabondantes et que pour l'historien, tout peut être trace, c'est-à-dire indice, c'est-à-dire source. Ça peut être une image, ça peut être un paysage, ça peut être un objet. Et ça peut être bien évidemment les archives classiques dont on pourra reparler, ou ce qu'on appelle les sources imprimées. Les sources imprimées, c'est en général la presse écrite, sur laquelle des générations et des générations d'historiens ont travaillé, avec de grandes difficultés aujourd'hui à prendre en compte d'autres sources qui sont la presse télévisée ou la radio. Ça peut être des recueils de documents, et ce sont bien évidemment les livres et les bibliothèques qui ont longtemps occupé une place privilégiée dans nos travaux. De fait, mon premier travail d'historien a eu pour source un corpus de livres que j'avais découvert tout à fait par hasard et qui était le corpus des livres du souvenir, en yiddish, Iskerbirer. C'était à la fin des années 70, dans ces années où émergeait ce grand sujet qui, de mon point de vue, est en voie de s'estomper, qui était le sujet de la mémoire et de la mémoire collective. Comment se souvient-on? De quoi se souvient-on? Comment s'articulent les souvenirs de nos histoires familiales et de ce que l'on va appeler, faute de mieux, la mémoire collective? C'était un questionnement personnel que je vais vous épargner, et c'était dans le cadre de ce questionnement personnel que je suis allé, au tout début des années 80, apprendre le yiddish à New York. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'apprendre le yiddish à New York, on apprend le yiddish pratiquement dans toutes les villes universitaires en France, et que j'ai découvert le livre du souvenir de la ville natale de mon grand-père, qui est donc l'arrière-arrière-grand-père d'Émile, qui est la ville de Gérardov. Et ce livre du souvenir, Iskor, alors, c'est Iskor, Iskor, c'est la racine hébraïque de ce souvenir. C'est la même racine que l'hébreu est une langue à racines comme l'arabe. Ça veut dire qu'il y a trois consonnes et que les mots se fabrique autour de ces trois consonnes. C'est donc la même racine que Zaror, ce souvenir, qui est le titre de ce livre qui a été tellement important, qui est paru en français au tout début des années 80, de Yerushalmi, qui s'appelait Zaror, qui est l'impératif de ce souvenir. Donc Iskor, c'est ce souvenir, et Bour, c'est... Voilà. Donc vous voyez en même temps ce que c'est que le yiddish. Une langue avec une partie de la sémantique qui vient de l'hébreu et qui touche d'ailleurs au vocabulaire en général sacré, et une autre partie qui est un dialecte au allemand. Donc c'était ces livres du souvenir, et la ville de Gérardov, c'était très drôle parce que en regardant le livre du souvenir de cette ville qui se trouve entre Varsovie et Lodge, je me suis rendu compte qu'elle avait été nommée à partir d'un nom français, Philippe de Girard, l'inventeur d'un métier affilé, qui avait installé les premières filatures de cette ville qu'on appellerait aujourd'hui une ville nouvelle, qui était une ville de filature, qui dans l'entre-deux-guerres avait été la propriété de Boussac. Philippe de Girard est de Lourmarin, et il est enterré dans le cimetière de Lourmarin, à côté de Camus. Ce sont les deux grandes célébrités de la ville de Lourmarin. En dehors de ce livre du souvenir de la ville de Girardov, il y avait à peu près 400 autres livres du souvenir d'autres localités de Pologne dont les Juifs avaient disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à partir de ce corpus que, avec mon ami professeur de Yiddish, Yitzhak Niborski, nous avons construit un livre pour la collection Archives. Alors, la collection Archives, ça a été une expérience éditoriale tout à fait particulière et tout à fait extraordinaire des années 60. C'est une invention de Pierre Nora. Vous pouvez lire la biographie que lui a consacrée François Doz, qui vient de paraître. Et Pierre Nora a eu l'idée qui lui est venue alors qu'il tentait vainement de travailler aux archives et qu'il ne voyait vraiment pas comment il arriverait à faire sa thèse, qu'il n'a d'ailleurs jamais faite, mais il est tombé littéralement fasciné par les archives. Et il a eu cette idée géniale de faire une collection de poches. On était quand même dans les tout débuts du livre de poche et certainement dans les débuts du poche en sciences humaines, une collection de poches où il confiait à un grand historien un sujet. Le premier livre a été un livre sur les états généraux, sur la Révolution française, et il y a eu dans la collection archives, pas sur les états généraux, sur les cahiers de doléances, pardon, et il y a eu dans la collection archives des ouvrages très importants, un ouvrage sur les archives de celui qu'Annie Kriegel a appelé l'œil de Moscou à Paris, qui était Humbert Rose, l'envoyé de l'international chargé de présider aux destinées du Parti communiste français. Il y a eu plusieurs ouvrages de Léon Poliakov, un Nuremberg, un Auschwitz, un livre de Michael Borwitz sur le ghetto, et beaucoup, beaucoup de titres, jusqu'à ce que la collection elle-même s'épuise, et aujourd'hui, plus personne n'aurait l'idée de faire une collection où on confierait à un historien de présenter des archives, aussi parce que beaucoup d'archives sont numérosées et sur Internet. Donc nous avons fait, avec Niborski, un livre qui est le 93e de la collection Archives, c'est-à-dire un des tout derniers, puisque c'est une collection qui n'a pratiquement plus d'ouvrages. Je crois que le tout dernier est un livre sur la gastronomie de Pascal Horry, me semble-t-il. Donc vous voyez qu'il y a comme ça le livre qui peut constituer un corpus, que ce corpus peut être lui-même une source, donc être utilisé par des historiens un peu comme des archives, et se retrouver ensuite retransformé en livre dans une collection qui s'appelle Archives. Et je crois avoir gardé ce goût du livre comme source, et avoir découvert plus tard l'archive traditionnelle que le livre. Par exemple, dans Ils étaient juifs résistants communistes, qui provient aussi d'une rencontre personnelle. Dans ma vie d'historienne, il y a beaucoup de hasard. J'avais travaillé surtout dans une très vaste enquête orale, en interviewant un très grand nombre de militants, de résistants, des francs-tireurs partisans de la main-d'œuvre immigrée, en me focalisant sur trois villes, Paris, Grenoble et Lyon. C'était au début des années 80, et à cette époque-là, on ne pouvait consulter que très peu d'archives, tout simplement parce que les archives n'étaient pas ouvertes. Donc les bribes d'archives, on les trouvait dans les organisations de résistance elles-mêmes, qui avaient réussi à piquer un certain nombre de rapports de police, on les trouvait un peu dans les centres privés d'archives, mais les archives publiques, notamment les archives de police, n'étaient pas ouvertes. Je vais reprendre, dès que j'en aurai le temps, ce travail, pour le revisiter à partir de toutes les archives qui sont aujourd'hui accessibles, notamment à la préfecture de police. Et puis je sais, parce qu'il y a ici Virginie Sansico, qu'il y a un certain nombre de dossiers aussi dans les archives ici qui permettent de reprendre ce travail. Et je pense que c'est d'ailleurs très intéressant de voir probablement comment un quart de siècle après, avec des problématiques bien évidemment qui ont bougé, mais avec un accès aux sources qui n'était pas accessible, comment on peut confronter la façon dont on a écrit une histoire fondée sur le témoignage oral et comment on peut écrire une histoire où il y a d'autres témoignages que sont les archives, parce que les archives sont aussi des témoignages, et notamment des témoignages de la pratique policière d'une époque. Je suis retourné donc au livre comme corpus avec ma thèse qui avait pour objet d'essayer de comprendre comment on avait perçu et comment on s'était représenté le sort des Juifs déportés dans les camps entre 1943 et 1948. Et je suis allé pour cela beaucoup travailler en bibliothèque pour lire les premiers récits. Alors, quelle bibliothèque ? Alors d'abord, les bibliothèques spécialisées dans les ouvrages touchant aux choses juives, c'est-à-dire la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, qui est une grande bibliothèque, la bibliothèque MEDEM, spécialisée dans les ouvrages en yiddish, qui est une petite bibliothèque associative, et surtout, le meilleur fonds sur ces questions-là, c'était celui qui se trouvait à la BDIC à Nanterre. Mon intérêt pour le témoignage venait de la lecture quasi clandestine d'un auteur qui avait alors très très mauvaise presse, qui s'appelait Norton Crue. Norton Crue avait procédé à une sorte d'inventaire de tous les types de littérature de témoignage concernant la Première Guerre mondiale. Et il critiquait chacun de ces témoignages de façon très pointue, très méticuleuse, très positiviste, en prenant en fait comme étalon sa propre expérience de la Première Guerre mondiale. Alors les historiens de 14-18 se sont littéralement déchirés sur la question de Norton Crue, les partisans de Norton Crue, les opposés à Norton Crue, celui qui a montré que Norton Crue en fait n'avait jamais été au front, enfin ça a été un combat terrible, mais pour lequel j'ai aucune compétence et aucune idée, sauf que ce recensement du témoignage et la façon dont il a décrit les différents témoignages, c'est-à-dire les romans, les témoignages, les correspondances, c'était quelque chose de très éclairant. Et il a aussi écrit un petit ouvrage, donc on est dans l'entre-deux-guerres, qui s'appelle « Du témoignage ». C'est donc le premier historien, enfin, en dehors de tous nos grands maîtres qui ont réfléchi en général sur le témoignage, qui a réfléchi sur le témoignage comme corpus. À cette époque-là, personne ne s'intéressait au témoignage. Et j'ai le souvenir des journées passées à la BDIC, je partais avec mon court-papier, je coupais les livres, et le soir, je nettoyais ma table des miettes de papier, parce que le papier des publications de l'immédiate après-guerre était un papier de très mauvaise qualité. Quand vous le coupiez, il s'effritait. Aujourd'hui, toute une partie des témoignages que personne n'avait lus ont été réédités et ont trouvé leur lecteur. Alors j'avais constaté que ces témoignages constituaient un véritable genre littéraire, puisqu'ils avaient tous à peu près la même structure, qu'ils étaient composés des mêmes éléments, et qu'il permettait d'écrire une première ébauche de l'histoire du monde, de l'univers concentrationnaire, à partir du témoignage des victimes, de mettre en lumière les différentes catégories. Mais pour cette thèse, je me suis aussi appuyé sur des archives, notamment les archives du ministère des Anciens Combattants, qui constituent aux Archives nationales la série F9, qui comportait toutes les archives du rapatriement. Cela signifie qu'il y a possibilité, bien évidemment, d'utiliser en matière de sources, de jouer sur beaucoup, beaucoup de sources. À l'époque, d'ailleurs, de la thèse, j'avais aussi utilisé les émissions de radio. À l'époque, en France, il n'y avait pas de télévision. Donc, les émissions de radio qui étaient à l'époque écoutables à la maison de la radio, tout simplement. Je crois que maintenant, elles ont été transférées à l'INATEC, hein, à l'INAC, on peut les écouter là-bas. Je n'avais pas eu l'idée d'aller regarder les actualités filmées, ce que d'autres chercheurs ont fait après. Donc, il y a un jeu de entre les sources. Et mon dernier travail de recherche que vous avez eu l'amabilité de signaler, c'est ce gros travail qui m'a pris beaucoup d'années sur Maurice et Jeannette, c'est-à-dire sur les époux Thorez. Alors, à l'origine de ce travail, il y a un intérêt qui fait partie de mes intérêts stables sur le communisme, depuis toujours. Mais surtout, le déclencheur, ça a été le jour où j'assistais à un colloque sur les archives en compagnie de mon amie Isabelle Neugevander, et où Isabelle me dit, Isabelle Neugevander, c'est celle ensuite qui a été à la tête des archives nationales avant d'avoir été débarquée précipitamment il y a à peu près un mois. Elle me dit, devine de qui on vient de recevoir les archives, des Thorez. C'était donc les archives de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, on ne va pas faire de secrétaire général en titre depuis le congrès de Villeurbanne, vous voyez que tout nous ramène à Villeurbanne aujourd'hui, mais qui avait en fait cette fonction-là depuis 1930. Les Thorez, enfin Maurice Thorez, a eu très vite une particularité tout à fait étonnante pour un leader communiste de travailler chez lui. Donc d'avoir chez lui, à son domicile, les archives de travail qui auraient dû se retrouver dans les archives du Parti communiste ou, quand il a été ministre, dans les archives nationales. Donc ce fonds considérable a été, donné dans ce qu'on appelle aux archives les archives privées. Les archives privées, c'est des archives qu'un déposant, par exemple vous, vous déposez, mais vous passez un contrat avec le centre d'archives ou la bibliothèque d'ailleurs, vous déposez les archives, qui règle qui en est propriétaire et qui règle aussi les conditions de consultation, qui peuvent être complètement libres ou qui peuvent être soumises à une autorisation des ayants. L'intérêt de ces archives, c'est que dans le même temps, la famille donnait aux archives municipales d'Ivry la bibliothèque de Maurice Thorez et les cadeaux que Maurice Thorez avait reçus, notamment pour son 50e anniversaire. Donc on avait cette chose tout à fait extraordinaire, qui me semble, sinon unique, j'en sais rien, mais en tout cas exceptionnel, d'avoir pour un homme politique tout à la fois ses archives et sa bibliothèque. Alors, Ivry, c'est une municipalité qui est restée d'ailleurs une municipalité communiste. Les archives municipales sont des archives où il y a des choses normales pour les archives municipales. Ce don a été un don si exceptionnel que la municipalité d'Ivry a consacré beaucoup d'argent pour construire un site internet où ils ont fait une fiche pour chaque livre ils ont scanné les dédicaces. Je vais revenir un peu sur les dédicaces. Et quand le livre était annoté, les annotations, une page d'annotation du livre. Ça veut dire que chez vous, sur Internet, vous faites fond Torres Vermeersch Ivry, et vous tombez sur le fond, et vous avez toute la bibliothèque de Torres à votre disposition. Bien évidemment, pour ce livre, je n'ai exploité que partiellement aussi bien la bibliothèque que les archives. J'ai envie, pour être tout à fait complète, mais en fait c'est la présence de Devin Cohen qui m'inspire, je n'avais pas l'intention de dire cela, que en même temps, il y a un fond de films qui sont tout à la fois des films de famille et des films politiques, et qui complètent le grand fond des films du Parti communiste qui est conservé par un organisme qui s'appelle Cinéarchive et qui a aussi un site internet très bien fait. Et c'est quand même une histoire très intéressante parce qu'en 1936, le Parti communiste français comprend très vite l'intérêt de la propagande filmée et passe une commande politique à Jean Renoir. Et cette commande politique, c'est le film « La vie est à nous » qui sert de film de propagande dans le cadre des élections d'avril-mai 1936, où va être élue la Chambre des députés du Front populaire. Donc il y a ce film que vous avez peut-être vu qui s'appelle « La vie est à nous » qui existe en DVD. Et Jean Renoir est à l'époque un proche de Maurice Thorez, il est le parrain de son fils aîné qui s'appelle Jean, comme Jean Renoir. Alors comme les histoires sont jamais aussi simples, le père de Jeannette Vermeersch s'appelait aussi Jean. Donc je pense que ça a facilité le fait de le nommer Jean. Mais surtout, Renoir éduque le chauffeur de Thorez, offre au chauffeur de Thorez une caméra, et apprend au chauffeur de Thorez à se servir d'une caméra. Si bien que c'est le chauffeur de Thorez qui filme un certain nombre d'événements, comme le meeting à Ivry pour le 150e anniversaire de la Révolution française en 1939. Je crois que c'est aussi le chauffeur qui filme le voyage que fait Thorez en Algérie cette même année. Donc on a des films, et puis qui filme un certain nombre de films de famille, comme il y a dans certaines familles. C'est donc un fonds considérable qui permet lui aussi de jouer sur beaucoup de sources et aussi sur les objets. Alors, pour revenir sur la bibliothèque, qu'est-ce que permet à un historien la bibliothèque? D'abord, elle permet de savoir quelle bibliothèque a un dirigeant d'un parti communiste. Ce qu'il lit. Alors, vous voyez tous les ouvrages théoriques, Marx, Engels, Lénine, Staline, donc tous les théoriciens du marxisme, tous les pères fondateurs du marxisme. J'ai oublié, bien évidemment, Engels. Vous voyez aussi les goûts en littérature, Diderot, Balzac. Mais vous voyez aussi ce qu'il ne lit pas. Quels sont les auteurs qui ne figurent pas dans sa bibliothèque? Pas Malraux, pas Proust, un seul ouvrage de Koestler. Et puisque je me suis intéressé beaucoup aux positions qu'ils ont prises l'un et l'autre sur les questions de sexe au sens large du terme, et spécifiquement sur la contraception, et que le Parti communiste français a été très violemment hostile à l'abolition de la loi de 1920 et à la possibilité pour les femmes d'accéder à la contraception, et que le Parti communiste, sous d'ailleurs je pense beaucoup la plume d'une Lyonnaise aussi, qui a été professeur ici, qui est, j'ai un trou sur le prénom, Madame Colombelle. Comment ? Jeannette Colombelle, voilà, qui était la fille de Marcel Prenant, donc une grande dynastie communiste, et qui, elle, a écrit tous les articles hostiles à Simone de Beauvoir. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a du Sartre et du Simone de Beauvoir dans la bibliothèque des Thorez ? Est-ce que Jeannette a eu la curiosité, enfin Maurice aussi, d'aller lire le deuxième sexe ? La réponse est non. Alors il est bien évident que c'est Internet qui permet ça. C'est-à-dire c'est Internet qui permet d'utiliser, c'est-à-dire vous avez une idée qui vous passe par la tête, une fois que l'idée vous est passée par la tête, si vous devez prendre le métro dans mon cas, pour aller à Ivry vérifier votre idée, vous renoncez, parce que le rapport entre la charge de travail et l'information n'est pas acceptable pour un chercheur. Mais si vous avez l'idée qui vous passe par la tête et qu'il suffit de 3 secondes pour la vérifier sur Internet, vous pouvez la vérifier. C'est donc un acquis considérable d'Internet. Ça permet aussi de voir les évolutions de ses lectures au cours de sa vie. Et à la fin de sa vie, le sentiment que j'ai eu, c'est que son univers s'était élargi, qu'il lisait davantage de poètes, qu'il lisait Saint-Simon. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de mutation qui le faisait se détacher et ouvrir son horizon par rapport au carcan qu'avait été celui de ce que j'appellerais rapidement la culture communiste. Le deuxième intérêt, ce sont les dédicaces. Non, je parle du 17, absolument du mémorialiste, et ça correspond au désir de Thorez d'être un grand homme d'État. Hein, donc c'est la phase où il a été ministre et où il est un grand homme d'État. Alors, deuxième utilisation, les dédicaces. Alors je ne vous cacherai pas que vous passez quand même des bons moments à lire les dédicaces, hein, notamment toutes les dédicaces d'Aragon ou d'Elsa. Et si vous vous ennuyez un soir, vous pouvez lire, et puis alors pas seulement les dédicaces d'Aragon d'Elsa, les dédicaces de Pierre Dex, enfin bon, de l'ensemble de tous ceux qui ont été communistes à l'époque, qui ont écrit des livres et qui envoient leurs livres à Thorez, y compris d'ailleurs les grands scientifiques qui étaient à cette époque-là au Parti communiste, les physiciens, les médecins, quand ils écrivaient. Donc la dédicace, ça indique quelque chose du rapport, et notamment, on pourra revenir sur cette notion, si vous le souhaitez, de ce qu'on a appelé le culte de la personnalité. Je les ai notés dans mon livre, je ne l'ai pas apporté avec moi. Sinon, j'aurais fait très volontiers. Alors, j'ai parlé d'une que j'aurais pu recopier un peu, qui est qui n'est pas tout à fait une dédicace, mais qui est la copie, qui est le manuscrit du très long poème qu'écrit Louis Aragon pour célébrer le retour de Maurice Thorez en France après sa maladie. Alors, j'explique un peu. En 1950, Thorez est victime d'un incident cérébral qui n'affecte pas la parole, qui n'affecte pas sa capacité de penser, mais qui le laisse totalement hémiplégique. Et le choix qui est fait, on est en pleine guerre froide, hein, en 50, le choix qui est fait par les soviétiques et auquel se rallie le Parti communiste français, c'est de transporter Thorez dans l'avion particulier de Vyshinsky, qui est à l'époque ministre des Affaires étrangères, pour qu'il se fasse soigner en Union soviétique. Donc, en novembre 1950, Thorez part en Union soviétique se faire soigner, puisqu'il est bien évident que le socialisme réglant tous les problèmes, il fera le miracle de le remettre sur pied. Il reste plus de 2 ans, avec effectivement des soins tout à fait attentifs. Il est soigné dans la grande clinique du Kremlin, et puis ensuite dans des séjours au bord de la mer Noire. Et il doit revenir en octobre 1952, il doit revenir en France. Il n'est pas complètement guéri, il marche encore avec beaucoup de difficultés, mais il est décidé qu'il revient. Il parle donc au 19e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Le 19e congrès, c'est 52, avant le 20e de 56. Et tout le monde est persuadé qu'il va revenir. Et Aragon écrit ce très 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 long poème que vous pouvez lire dans les œuvres poétiques complètes de la Pléiade, qui s'appelle « Il revient », qui célèbre le retour de Maurice Thorez, où il raconte comment les sonnettes, les nickels des vélos s'entrechoquent, et tout le monde dit « il revient, il revient ». Et Aragon écrit ce poème sur l'exemplaire, sur les pages de garde de son étude sur Courbet, qu'il envoie à Thorez. Et ça nous permet de dater avec certitude que le retour de Thorez est prévenu en octobre 52. Or, il ne revient pas. Pourquoi il ne revient pas? Tout simplement parce que Staline a inventé un complot. Les historiens spécialisés dans le communisme considèrent aujourd'hui que Staline faisait des inventions de complot. C'est-à-dire qu'il inventait une intrigue, un complot, comme d'autres écrivent un roman ou un scénario de film. Et ce complot, enfin avec un objectif politique derrière, hein, qui était en général de se débarrasser de ceux qu'il considérait comme des ennemis de son pouvoir personnel. Et ce complot, c'est le complot des blouses blanches. Et le premier accusé de ce complot, c'est un médecin qui s'appelle Vinogradov, le même nom que l'ambassadeur d'Union soviétique en France. Je n'ai réussi à trouver aucun renseignement biographique précis sur ce médecin, malgré la demande que j'ai faite à mes collègues spécialisés en Union soviétique. Et Vinogradov est donc accusé d'avoir attenté à la santé de Staline. Mais par la même occasion, il est aussi accusé de sabotage médical sur Thorez. Et c'est la seule explication plausible au fait que Thorez ne rentre pas et qu'il ne rentre qu'après le décès de Staline, après mars 1953. Donc vous voyez que la dédicace peut servir à beaucoup de choses. Les annotations maintenant. Les annotations, c'est une merveille. Alors, bien évidemment, je n'ai pas tout vu. En fait, si je regarde ce que j'ai regardé attentivement comme annotation, j'ai regardé attentivement les annotations de 3 ouvrages. Les annotations de la thèse d'Annie Kriegel. Alors, pourquoi? Je vous ai dit qu'il y avait toujours une composante personnelle, mais Annie Kriegel a été ma directrice de thèse. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu un lien très fort. Et ça m'intéressait beaucoup. Vous connaissez l'histoire d'Annie Kriegel. Elle est rentrée au Parti communiste à Grenoble, très jeune résistante dans la MOI, dans les jeunesses communistes de la main-d'œuvre immigrée. Ensuite, elle est devenue communiste très très fanatique. Elle a intégré Sèvres, passé une agrégation d'histoire, était permanente de la Fédération de la Seine du Parti communiste, chargée des intellectuels. Donc on trouve des témoignages sur la façon dont elle agissait dans un certain nombre d'écrits, l'autobiographie de Morin. Et puis elle a rompu au mi-temps des années 50 et elle a commencé son œuvre d'historienne du communisme. Et je considère pour ma part que c'est la plus grande historienne du Parti communiste français et de très loin. Ça m'intéressait de voir ce que Thorez avait dit de sa thèse. Annick Riegel envoie à Thorez, cette même année 64, qui est l'année de la mort de Thorez, hein, deux ouvrages, un collection archives sur le congrès de Tours, qui est le congrès qui voit la fondation du Parti communiste français. Et elle lui envoie avec comme dédicace, vous avez voulu Jaurès et Lénine, et aujourd'hui, ça c'est la dédicace du congrès de Tours, vous avez voulu Jaurès et Lénine. La dédicace qu'elle lui envoie pour sa thèse, qui est parue chez Mouton, donc à l'époque c'était des thèses d'État, des très grosses thèses, est une dédicace beaucoup plus humble, où elle lui dit, enfin en gros j'espère que vous apprécierez ce gros travail. Or, Thorez lit les 200 premières pages de la thèse, il ne va pas plus loin, et manifestement, il n'apprécie absolument pas. Et il la note de façon très violente. Quand Annick Riegel explique que c'est dans l'émigration russe qu'on a trouvé les bolcheviques, parce que n'étant pas en Russie, leur fibre nationale était moins grande en 14-18 que celle des sociodémocrates qui étaient restés en Russie, il note langage de renégat. Et puis, à la fin, on sent que le ton monte, et avec trois points d'exclamation, il marque, elle a du toupet. Bon, et puis il arrête la lecture. Et il dicte une lettre, tout à fait polie et correcte, à Annick Riegel, qui, dans son ouvrage sur les communistes, dit, Thorez n'est pas comme ces gens des cahiers du bolchevisme qui ont écrit sur mon livre un article ignoble, lui, au moins, m'a écrit une lettre polie. Et quand on confronte la lettre polie qu'il lui a écrite avec les annotations, on s'aperçoit que les cahiers du bolchevisme avec l'article ignominieux sur son livre correspondent tout à fait à ce que pensait Thorez. Et ça atténue beaucoup cette idée que certains ont eue que Thorez était un homme ouvert qui acceptait beaucoup de choses. Le deuxième livre que j'ai annoté, je ne me suis absolument pas servi de cette annotation, c'est un de mes regrets, parce que à un moment donné, je ne vais pas paraphraser Thorez disant qu'il faut savoir terminer un livre, mais il y a un peu de ça quand même, et je n'ai pas du tout creusé la question du rapport au catholicisme de Thorez. Et notamment au rapport qu'il a eu avec un personnage tout à fait intéressant, qui s'appelle Madeleine Delbrel, qui avait installé une communauté à Ivry, qu'elle considérait comme une terre de mission. Or, elle écrit un ouvrage sur Ivry, qu'elle envoie. Elle avait un lien très proche avec Venise Gona, la famille Gosna ou Gona, c'est une hiérarchie, c'est le petit-fils de Venise qui est aujourd'hui maire d'Ivry. Donc c'est une dynastie d'Ivriens ayant des responsabilités dans la municipalité ou dans les finances du Parti communiste, puisque le père de l'actuel maire était un des trésoriers du Parti communiste. Et là, ça permet aussi d'éclaircir le rapport de Thorez au catholicisme. Philippe Robrieux, qui a été un des grands historiens du communisme, avait postulé que tous les communistes, pratiquement, quand ils n'étaient pas juifs, bien évidemment, avaient eu une éducation chrétienne. Et Thorez lui-même a été enfant de cœur, a suivi le catéchisme, et il disait, on verra, un petit peu sur le modèle du Jean Barois de Martin Dugard, on verra bien comment finalement ce sont des croyants. C'est-à-dire que la théorie de Robrieux, c'est qu'il y a eu une translation de la croyance de l'enfance au catholicisme à la croyance au communisme. Et que Le jour, écrivait-il, où on aura les papiers personnels de Thorez, ben on verra qu'il n'a cessé d'être croyant. Et bien, quand on regarde comment il annote Madame Delbrel, ou comment il écrit dans son journal, on s'aperçoit que c'est totalement faux, et que la théorie, ça, la stabilité de sa pensée a été celle-là. Nous, les communistes, nous nous battons non pas pour le paradis après, mais nous nous battons pour le bonheur sur Terre. L'exergue de Fils du peuple, récit autobiographique, c'est la phrase de Saint-Just, le bonheur est une idée neuve en Europe. Et il n'a pas d'un poil bougé, et jusqu'à la fin, quand on regarde ses écrits privés ou ses annotations, on ne trouve aucun signe de retour à la religion, et on ne trouve aucun signe d'un quelconque retour à la religion après sa maladie. Alors, le troisième livre dont j'ai regardé les annotations, c'est comment Jeannette Vermeersch a annoté le premier livre de son fils déviant, celui qui a osé écrire le premier sur le train de vie des Thorez, qui est Paul Thorez, le livre des enfants modèles. Et là, les annotations, je dirais juste qu'elles sont terrifiantes. Et elles montrent la violence qui a été celle de Jeannette Vermeersch quand Paul Thorez a osé écrire sur ses séjours dans les colonies pour enfants modèles de l'Artec. Alors, je vais conclure en disant que je crois quand même que nous autres historiens, nous sommes des pragmatiques. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas une historienne théoricienne, donc pragmatique, et que finalement, qu'est-ce qu'on cherche ? Ben, on cherche des sources qui permettent de répondre aux questions qu'on se pose. Et qu'aujourd'hui, le problème que nous rencontrons, c'est peut-être qu'on ne sait plus très bien quelles questions se posent, mais aussi qu'on vit dans un monde qui est saturé de tout, qui est un peu, alors ce n'est pas très original, parce que maintenant tout le monde cite la nouvelle de Borges, Funès, qui est saturé parce qu'il y a une inflation de tout. Les livres se vendent de moins en moins, mais on en publie de plus en plus. Quand on regarde la courbe des livres qui paraissent, on est littéralement affolé. Les archives, pareil. Et on vit aujourd'hui dans un flux d'images. Et le problème, c'est le risque qu'on a de se noyer. Et je vais prendre un dernier exemple sur lequel je conclurai, parce que c'est mon dernier travail. Je conclurai sur la question de l'archive filmée, sur le procès Eichmann, dont on a célébré hier le 50e anniversaire de l'ouverture. Ce procès est le premier procès filmé en intégralité pour la télévision. Et merveilleusement filmé, grâce à un producteur de génie américain qui s'appelait Milton Fruchtman. Milton Fruchtman avait compris que l'on pouvait utiliser les technologies qui étaient à la pointe à l'époque, qui étaient le magnétoscope Ampex et des petites caméras Marconi, magnétophone Ampex et les petites caméras Marconi. Non, le magnétoscope enregistrait de l'image, sans pellicule, enregistrait de l'image, sur vidéo. Et le premier exemple de cet enregistrement, ça avait été un très fameux débat que les Américains citent comme si tout le monde le connaissait, qui s'appelle le Kitchen Debate, qui était un débat entre Khrushchev et Nixon, qui était vice-président des États-Unis, tenu, je crois, en 56 ou 7, à la Foire internationale de Moscou, dans une cuisine américaine. Et les Américains avaient tellement aimé les images qu'elles étaient passées quasiment en boucle sur la télévision américaine. Elles sont aussi passées sur 5 colonnes à la une, qui était la grande émission magazine, et vous pouvez les regarder chez vous sur Internet, gratuitement, sans avoir des accès codés, ce que j'ai fait. Donc c'est à partir de là qu'il a eu cette idée d'enregistrer le procès pour la télévision. Et il a eu la deuxième idée grandiose, qui était d'embaucher pour ce filmage un très grand réalisateur de documentaires qui s'appelle Lee Horvitz, qui fait partie du petit groupe d'Américains de la gauche radicale qui a créé le documentaire aux États-Unis. Si on veut le comparer à quelqu'un, ça serait à Jerry Stevens. C'est à peu près cette génération de documentaristes. Or, aux États-Unis, à partir de 1947-48, à cause du McCarthyisme, il est blacklisté, il ne peut plus travailler. Donc il est disponible pour aller, et il est encore blacklisté, il est encore interdit de télévision en 61 au moment du procès Eichmann. Et Fruchtmann lui propose donc d'aller filmer le procès Eichmann. J'ai travaillé avec ma collègue Sylvie Lindeper sur ce procès filmé. Comment nous avons travaillé? On se disait, ah ben on regarderait bien ça. Et on commandait l'archive au centre des archives du film à Jérusalem, puisque les archives filmées appartiennent aux archives, enfin à l'État d'Israël. On commandait, bon heureusement on avait eu un financement, parce que non seulement on commandait, mais on payait. Pas très cher, hein, parce que l'archive filmée, quand c'est pas pour utiliser dans un documentaire, c'est pas des sommes exorbitantes. Mais il fallait commander un petit bout d'archive. Depuis 3 jours, les 250 heures des archives filmées par Lee Horvitz sont mises sur Internet. Donc aujourd'hui, on peut, chez soi, avoir les archives filmées du procès Eichmann. On peut, sur un site niscor.org, avoir tous les transcripts et tous les documents du procès en anglais et en allemand. Il n'y a pas de site en français. Ça veut dire que de chez soi, on a toute la documentation qui est là. Et il est bien évident qu'on ne travaille pas de la même façon si on travaille en prélevant un échantillon qu'on considère comme étant un indice et si on a la totalité. Et je crois que ça nous pose beaucoup de problèmes aux historiens. Et je... Une heure, pile.
Merci beaucoup. Des réactions, des interventions sur l'interrogation, en tout cas finale, par exemple, hein, sur l'explosion. Oui, je pense que... Allez.
Que vous cherchiez... Est-ce que vous, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous concluez un peu rapidement de l'absence du livre à l'absence de la lecture, notamment pour Simone de Beauvoir. Vous voyez ce que je veux dire?
Si vous voulez, j'en ai la quasi-certitude parce que parallèlement, à partir du moment où Maurice Thorez a eu sa maladie, il a appris à écrire. Alors d'abord, il a fait une rééducation de la main droite et ensuite il a appris à écrire de la main gauche. Et il a tenu un journal qui avait d'abord pour fonction d'apprendre à écrire de la main gauche. Et dans cet ouvrage, il note toutes ses lectures. Donc on a concordance entre ces lectures et ce qu'il y a dans les bibliothèques. Parce que quand je tombais sur le journal, sur un livre, j'allais regarder dans la bibliothèque, voir la dédicace ou l'absence de dédicace. Donc on a cette possibilité de confronter. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de curiosité à l'extérieur de enfin, on ne confronte pas ce que l'on pense à des gens qui sont opposés par le livre. Alors il y a des gens qui sont spécialisés. Par exemple, Jeannette Colombel, elle a lu Simone de Beauvoir. Hein, c'est pas, ce n'est pas les lectures du secrétaire général du Parti communiste. Par contre, il lit Madeleine Delbrel. Donc je crois que je peux le dire avec certitude. À cause de ce recoupement entre deux sources qui sont le journal et la bibliothèque.
J'ai pas lu ton dernier livre là, mais l'image que moi j'ai de Thorez, c'était quand même quelqu'un qui était incapable d'écrire, ce qu'on citait toujours sur ses, à propos de Fréville dans Le Fils du Peuple, c'est en anagramme, ouais, c'est moi qui ai écrit, ouais. C'est Fréville qui a écrit ce livre, etc. Tu vois?
Alors, je suis bien évidemment revenu sur la fabrique de Fils du Peuple. Ouais. Et c'est vrai qu'il a eu ce qu'on appelle un nègre, qui était Fréville. Mais quand on regarde, je ne voudrais pas faire de la délation, hein, mais quand on regarde aujourd'hui tous les hommes politiques, ou les femmes politiques, y compris ceux ou celles qui rentrent à l'Académie française sur un succès de librairie, et qu'on connaît un peu les journalistes, les maisons d'édition, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas écrit leur livre. Ce qui n'empêche pas que c'est leur livre. C'est-à-dire que c'est leur livre. Et ce qui est très intéressant, c'est que Fréville sera la plume de Thorez jusqu'à la fin. Hein, y compris quand il y a une édition en japonais de Fils du Peuple, Thorez commande la préface à Fréville. Hein, donc on a les traces dans la correspondance. Mais en même temps, les deux éditions, c'est lui qui se remettra à les faire. Et il écrit lui-même. Il écrit lui-même. Donc je pense que c'est une mise en forme qui est faite par Fréville, mais que c'est quand même quelqu'un qui sait écrire, Thorez. Pas peut-être aussi bien que Fréville pour le début de Fils du Peuple, que je continue à trouver, qui est un beau texte sur l'enfance. Mais je pense que c'est abusif de dire ça de Thorez, alors que c'est le cas de quasi tous les hommes politiques. À quelques exceptions, De Gaulle, Mitterrand, enfin, il y a des hommes politiques qui sont des écrivains, hein. Mais d'autres qui ne le sont pas et qui font écrire leur livre par eux. Disons que c'est comme pour le cinéma. Il précède les livres magnétophones, à une époque où il n'y a pas de magnétophone.
Je voulais avoir votre opinion concernant la valeur des témoignages, puisque justement avec Internet, les témoignages de tout le monde se multiplient sur tel ou tel événement. Est-ce que ça ne représente pas une difficulté maintenant plus importante pour l'historien pour arriver non seulement à les lire, mais surtout à les interpréter?
Vous évoquiez tout à l'heure Hiroshima. Dans la même collection que celle qui a publié les comptes rendus d'audience des procès Pétain, Nuremberg, Eichmann de Joseph Kessel, vient d'être publié, j'ai entendu ça à la radio, un livre de témoignage d'un grand journaliste américain qui s'appelle John Hersey sur Hiroshima. Donc, à l'époque, il y avait aussi des témoignages qui étaient des témoignages de journalistes ou de journalistes interrogeant des témoins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une multitude de témoignages et que ces témoignages se copient aussi les uns les autres. Donc, les historiens sont effectivement embarrassés par cette multitude de témoignages et par le fait qu'ils sont... qu'ils sont si facilement disponibles et que sur certains sujets, par exemple Auschwitz, hein, le camp d'Auschwitz, les témoignages se recopient tellement que tout le monde raconte la même histoire, notamment qu'ils passent sous le portail le travailleur en libre, alors que pour la plupart d'entre eux, ils vont directement à Birkenau et qu'ils ne sont jamais passés sous ce portail. Donc, je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui construire un récit historique uniquement à partir des témoignages, même si les témoignages peuvent aider. Maintenant, je crois que l'autre problème du témoignage, il est ailleurs, il est dans la question qui a été posée, l'écriture de soi peut-elle dire l'histoire? Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Par exemple, est-ce que l'histoire du communisme, est-ce que si on collationne tous les témoignages du Goulag, on aura une histoire du communisme? Est-ce que si on collationne tous les témoignages sur Auschwitz, on aura une histoire d'Auschwitz? Donc on a à l'heure actuelle en histoire, la même chose que dans tous les domaines, un très grand individualisme. Donc le goût pour le témoignage, c'est le goût pour l'individualisme. Un abandon du politique. Or, cet abandon du politique, là j'en connais que c'est Evelyne, mais par exemple, je suis frappé par les thèmes de la fabrique de l'histoire. Il y a de plus en plus des thèmes qui sont l'histoire du corps, l'histoire de l'histoire culturelle, et avec un abandon des grandes questions qui sont le pourquoi et le comment de l'installation de tel ou tel régime politique. Parce que s'il y a du goulag, s'il y a des camps, ce n'est pas simplement les souffrances. S'il y a le Rwanda, s'il y a ce que décrit Asfeld, le génocide de proximité, les voisins à la machette, c'est bien qu'il y a eu aussi des problèmes politiques qui se sont posés, notamment les problèmes des interventions des puissances. Gbagbo, il est fatigué, comme on l'a dit là aujourd'hui, on l'a vu à la télé hier, fatigué, prisonnier. Mais ce serait quand même aussi intéressant de savoir comment les choses se sont passées. Donc, trop de témoignages, ça fait que finalement on est dans des processus d'identification et qu'on ne se pose pas les problèmes politiques, parce que les problèmes sont en dernier ressort des problèmes politiques. C'est-à-dire que les problèmes de la Côte d'Ivoire sont des problèmes politiques, les problèmes de la Tunisie sont des problèmes politiques. Et je crois que les historiens vivent et respirent le même air que tout le monde. Et si on a un tel goût aujourd'hui pour, je sais pas quoi, l'histoire du parfum, l'histoire, enfin, tous ces petits objets qui sont très intéressants, hein, d'une histoire culturelle qui s'est aussi beaucoup dilatée dans ces objets, c'est aussi parce que les historiens, quand les citoyens désertent les urnes, et ben les historiens désertent un certain type d'histoire. Voilà ce qu'on peut dire sur le témoignage. Pas du tout, je me garderai bien. Ce serait un constat d'une invasion de ce type d'histoire. C'est-à-dire du fait que aujourd'hui beaucoup, beaucoup de gens travaillent sur ces sujets-là.
Justement, pardon, sur la mise en perspective par rapport au fait que beaucoup de personnes, de chercheurs, travaillent sur les mêmes sujets, est-ce que à un moment donné, comme dans les sciences dures, il n'y aurait pas quelque chose à inventer autour du collectif, d'arriver à croiser davantage les sources, d'arriver à changer les thématiques de travail, d'arriver éventuellement à partager des conclusions, arriver à élaborer quelque chose de plus...
Je vais essayer de
collectif, justement.
La grande différence avec les sciences dures, c'est que pour inscrire en thèse un étudiant en sciences dures, on exige qu'il ait un financement. C'est-à-dire qu'en gros, le thésard de sciences dures, quand il va soutenir sa thèse, il a une chance raisonnable d'avoir du travail. En sciences molles, dans les nôtres, hein, en sciences humaines, à quoi est-ce qu'on assiste ? On assiste à l'inscription libre. N'importe qui a le diplôme nécessaire peut s'inscrire en thèse. Et puis peu après, soutenir sa thèse. Et peu après, être intellectuel précaire pour le restant de ses jours. Parce qu'il y a aussi une énorme inflation dans les thèses. Dans le temps, les thèses étaient régulées par un fichier des thèses. Ça veut dire qu'on n'inscrivait pas deux personnes sur le même sujet, ou sur des sujets approchants. Aujourd'hui, ça arrive fréquemment que l'on inscrive sur des sujets très approchants, bien que quelqu'un d'autre ait déjà soutenu. Il faudrait aussi voir quelle est la situation, quelle est l'atmosphère entre les collègues. Parce que parfois, un collègue va mettre quelqu'un sur un sujet de thèse pour qu'il efface le travail fait par quelqu'un d'autre. C'est aussi des choses qui ne se disent pas, mais qui, c'est des pratiques qui n'existaient pas et qui sont des pratiques aujourd'hui de plus en plus courantes. Alors, la recherche collective, c'est aujourd'hui une des tendances. Hein. Il y a un ministère de la Recherche, il y a une ARS qui note, et il y a des ANR. Donc, il y a des gens qui pratiquent la recherche collective. De mon temps, ça ne se pratiquait pas, et je crois que, personnellement, je ne suis pas apte à ça. Mais vous avez très probablement raison, il faudrait des grands projets de recherche collective. Alors, il y a des choses très intéressantes qui vont être fatales, qui vont être nécessaires, qui sont, par exemple, les travaux des corpus. Par exemple, je crois que c'est la BNF qui fait du dépôt de sites internet. Voilà, bon. De l'archivage web. Donc là, s'il n'y a pas une réflexion collective sur qu'est-ce qu'on archive, comment on travaille, personne ne pourra travailler. J'ai parlé du procès Eichmann. 4 caméras. Mais un réalisateur Horowitz qui fait du tourné-monté. Donc on conserve une image. Aujourd'hui, le procès des Khmers Rouges, enfin s'il se tient, mais il y a eu le premier procès qui est celui de Douche, ou le Rwanda Arusha, 4 caméras. Toutes les 4, on garde la pellicule. Ça veut dire des milliers, des milliers, des milliers d'heures. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le problème de l'image, c'est comme le problème de la radio, c'est chronophage. Un scénario de documentaire, c'est 3 feuillets. Regarder un documentaire, c'est le temps réel. L'archive filmée, c'est le temps réel. C'est-à-dire quand vous regardez de l'archive filmée, vous la regardez en temps réel. Quand vous avez un œil exercé, là où vous allez faire 3 cartons d'archives, vous allez pouvoir voir combien d'heures. Donc il y a tous ces problèmes-là qui effectivement devront être réglés par du travail en équipe. Je pense que les jeunes chercheurs ont davantage l'habitude de travailler en équipe que nous on a eu cette habitude. Mais il y a plein de choses qui ont changé. Nous on a tous fait nos thèses en travaillant, comme prof du secondaire ou comme assistant pour les plus chanceux, avec parfois un détachement au CNRS. À la fin, là, vous avez des étudiants qui viennent vous voir et qui vous disent « Ah ben, je finance 2 ans, si j'ai pas de financement, je ferai pas la thèse. » C'était impensable il y a des années. Tout le monde était passé par l'enseignement secondaire. Donc aujourd'hui, c'est fini. Donc les conditions du métier ont beaucoup changé. Mais je crois qu'effectivement, pour un certain nombre de grands corpus, il faudra du travail collectif. Mais est-ce que vous pouvez imaginer Agulon travaillant collectivement? Est-ce que vous pouvez imaginer Corbin travaillant collectivement? Où vous mettez dans ce travail collectif la question de la rédaction, de la construction du récit, de l'écriture au sens où un historien écrit? La dernière opération, c'est l'écriture. Alors quoi, on va tous écrire en anglais nos rapports comme on exige aujourd'hui? Donc qu'est-ce que ça va être, une histoire? On va basculer du côté des sciences, l'histoire c'est du côté des humanités. Donc tout ça, ça pose beaucoup de problèmes.
Oui, je reviens à mon propos de tout à l'heure sur les sujets que les historiens traitent aujourd'hui et qui seraient un peu secondaires par rapport aux grands sujets de l'histoire. Comment vous expliquez cet engouement tout d'un coup pour des sujets entre guillemets plus légers, peut-être l'histoire du parfum, du corps, de la laideur, de la beauté? Là, vous parliez de Pascal Horry qui a fait un livre sur les archives de la cuisine, la gastronomie, voilà. Comment vous expliquez qu'on passe de sujets que vous avez appelés tout à l'heure les grands sujets à des sujets peut-être mineurs?
Alors, je pense... Bon, Pascal Horry, je le mets à part.
Oui, oui, moi aussi, je l'ai eu comme professeur, voilà. Donc j'étais très étonnée qu'il fasse quelque chose sur la gastronomie.
Multiple, et que cet intérêt pour la gastronomie est un très vieil intérêt. Et qu'on a bien le droit de... il a fait aussi... sa grande histoire culturelle du Front populaire. Donc, j'ai envie de dire, on a bien le droit de s'amuser aussi. Enfin, on a bien le droit de se distraire un peu. Hein. On n'est pas obligé d'être toujours dans des sujets. Et puis, bon, la gastronomie, c'est peut-être c'est aussi un vrai sujet. Je crois tout simplement qu'on ne sait pas lire le monde aujourd'hui. Et qu'on interroge toujours le passé à partir des questions du présent. Et aujourd'hui, on ne sait plus quelles questions poser au présent. Et il y a quand même un rapport au passé qui est en train de se modifier très, très profondément. Par exemple, quand vous travaillez sur le Parti communiste, il s'est structuré lui-même par rapport à une écriture de sa propre histoire, par rapport à ses propres références historiques. Vous voyez aujourd'hui un militant communiste, il est d'une ignorance totale de l'histoire de son parti. Non seulement il a une ignorance, mais il n'a pas envie de savoir. Vous prenez un jeune militant socialiste et vous lui demandez, par exemple, de dire qui est Jaurès, qui reste quand même avec De Gaulle un des deux personnages les plus populaires de France. Il ne saura pas répondre. Alors que jusqu'aux années 80, tous les débats politiques au sein du Parti Socialiste, par exemple, étaient nourris entre les oppositions, entre Juppé, Jaurès. Donc il y a une perte du rapport au passé, qui est une perte des ancrages historiques des diverses formations politiques et du pays lui-même. Et je pense que c'est parce que on ne pose plus au passé de grandes questions. On peut poser n'importe quelle question à partir du moment où on fait l'histoire, c'est-à-dire on s'intéresse au passé. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Oui. Evelyne.
Par rapport à ça, je te parle de l'histoire culturelle, moi, j'ai grandi. Par exemple, l'histoire du corps. Moi, j'ai été au Chili il y a quelques mois, et il y a un musée de l'histoire culturelle qui était en train de c'était le corps torturé. Voilà. Donc, les thématiques, en fait, ça dépend aussi du contexte de réception. Donc, il y a cet aspect-là, et véritablement, cette question du corps, elle était extrêmement mobilisatrice au Chili, et leur permettait de poser, de revenir justement sur leur passé, les questions de la torture, etc.
Absolument.
Voilà. Donc, c'était pas du tout la même chose. Hein.
Absolument.
Voilà. Donc, deuxième chose, moi, j'ai été interpellée récemment parce que j'ai participé à un atelier sur l'archivage du web, l'atelier de l'INA. C'est d'une certaine manière extrêmement angoissant parce que le passé immédiat devient immédiatement patrimoine.
Oui, hein? Absolument.
Donc, il y a une capacité à interroger en langage réel, absolument, quasiment dans l'immédiat. Dès qu'un site est renouvelé, il est aussitôt archivé. Voilà. Donc, il me semble que ça, par exemple, ça veut dire que, d'une certaine manière, on disait l'obsession de la mémoire, et là, on est dans l'obsession du présent.
C'est ce que notre collègue François Hartog appelle le présentisme. Et on est effectivement dans l'obsession du présent. Et dans l'obsession de tout garder et de tout montrer. Par exemple, vous faites une... il y avait quelque chose de très amusant. Il y a eu un hommage à Yerushalmi au musée d'art et histoire du judaïsme. Et il y a eu donc une table ronde autour de la mémoire avec Pierre Nora. Et Pierre Nora dit, aujourd'hui, on conserve tout. Par exemple, ce qu'on est en train de dire, on pourrait envisager de le retrouver sur la toile. Et on lui répond, mais on ne peut pas du tout envisager de le retrouver sur la toile. C'est sur la toile demain. Ça veut dire que ce bavardage, parce que c'était quand même du bavardage, hein, on était du bavardage de haut niveau, mais du bavardage quand même. Le lendemain, c'est enregistré par un machin qui s'appelle Academ, et le lendemain, c'est mis sur la toile. Et c'est comme ça en permanence, c'est-à-dire que c'est un flux d'où rien ne ressort, parce que si on est là à faire une table ronde, on pèse pas à chaque mot, on va balancer ça et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, comment on va hiérarchiser et comment on est envahi et comment il y a si peu d'analyse et comment on ne laisse pas les événements se développer et que, enfin, on est en prise directe en permanence. Et ça, je trouve aussi que c'est extrêmement angoissant. Et à cette occasion-là, j'ai relu le Zaror de Yerushalmi, c'est 4 conférences. La dernière, c'est la conférence actuelle des années 80. Et il dit, l'histoire comme discipline est apparue à une période historique donnée. Elle est datée historiquement. Nous autres historiens, nous avons cette capacité de savoir que les choses ne sont pas éternelles et que ce qui est apparu historiquement peut aussi disparaître historiquement. Et il disait que pour sa part, il pensait que l'histoire telle que nous la pratiquons comme discipline était en train de disparaître. Et il trouvait ça, 1980, très angoissant. Et il disait que de temps en temps, quand il se mettait à sa table de travail, il se demandait pourquoi il continuait. Quand on relit ça, 30 ans après, on se dit que ce qu'il a perçu est quand même très largement en train de se dérouler sous nos yeux. Avec, et c'est Pierre Nora qui en faisait la remarque, cette nuance, ou ce bémol, qui est qu'aucune société n'existe sans rapport au passé, sans rapport à son passé. Donc qu'est-ce que ça va être, le rapport à notre passé? Je vais redonner un autre exemple dans les sujets qui ont été pendant des années les miens, qui ont été d'ailleurs toute une branche de l'histoire, hein, pas seulement ce que j'ai fait moi, mais d'autres. On a beaucoup étudié les commémorations. Et on a beaucoup étudié la façon dont s'articulait la mémoire collective portée par des groupes d'anciens résistants, d'importés, les conflits de mémoire, la mémoire publique portée par l'État, les mémoires individuelles. Donc on a mis sur pied toute une méthodologie dont l'expression la plus complexe, c'est quand même les lieux de mémoire de Nora. Hein. Donc on peut étudier le mur des fédérés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un acteur unique qui sont les sociétés qui fabriquent des événements et à qui on sous-traite l'anniversaire de la bataille de la Marne, l'anniversaire du 18 juin, et vous avez la même, le 50e anniversaire du procès Eichmann, et vous allez avoir la même société de production, d'événements, hein, ils font des événements, qui va s'occuper de promouvoir la rafle dans les écoles et de faire les livrets pour les élèves, là où dans le temps c'était comme moi j'étais prof, c'était le CNDP. Donc la même société. Donc elle va faire le livret de la RAF, le livret du bourgeois gentilhomme, le livret, le truc préparer l'événementiel qui va nouer la santé du film, la pub, la télé, les plateaux, les... Voilà. Et les acteurs traditionnels ont disparu. Vous avez les mêmes cabinets d'architectes qui vont faire le mémorial au massacre de Charpeville en Afrique du Sud, qui a vu la naissance de l'ANC, enfin de ce qui a porté Mandela au pouvoir, le mémorial de Nankin, et, je ne sais pas, un musée de l'esclavage, par exemple. C'est le même cabinet d'architectes, c'est les mêmes cabinets de scénographes, donc tout finit par se ressembler. Et l'architecte à qui, celui qui n'a pas déjà l'habitude, à qui on confie une scénographie d'un événement de type massacre ou génocide, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord à Yad Vashem en Israël, voir comment ils ont fait. Donc le mémorial de Nankin est très largement copié sur Yad Vashem, et je peux vous garantir que les massacres de Nankin décembre 1938 qui sont une atrocité absolue, ne sont pas identiques au génocide des Juifs. Ça n'a pas fonctionné pareil, ni politiquement, ni dans la façon, ni dans les modalités de meurtre, ni dans l'énorme importance qu'a pris le viol, alors que la question du viol est quasiment absente de la question du génocide. Donc, on va à Yad Vashem, après on va au mémorial de Washington, et puis on fait la scénographie. Donc on est dans un rapport qui va être fait par de l'ingénierie culturelle et qui rend toutes les interrogations qu'on a peaufinées pendant 30 ans complètement obsolètes. Les sites web que vous archivez, il y a des contenus, mais il y a aussi des présentations de blogs. Je suppose que les gens qui fabriquent des sites, il y a une technologie du site aussi. Pas simplement le contenu, c'est aussi la présentation.
Juste poser une dernière question. Enfin, pour ma part. Un peu provocatrice, parce que vous parliez de la mort de l'historien, la disparition de l'historien. Dans les bibliothèques, on se fait aussi beaucoup de soucis pour nous. Hein. J'en ai pris conscience en entrant à l'ENSIB, parce qu'on parle de la disparition de la médiation. Dans la mesure où les archives sont accessibles, justement, par le web, etc., est-ce qu'il ne va pas se passer pour les historiens ce qu'on redoute aussi pour les bibliothécaires? Finalement, l'accès est direct, permanent. C'est pas seulement la quantité des sources qui a changé, c'est aussi justement l'accessibilité de chacun, et le public a changé aussi. Donc vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est, je n'y crois pas, je crois que les historiens sont irremplaçables. Je ne pense pas que je lirai de la même façon, ou je regarderai de la même façon les archives d'Eichmann. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ce risque-là? Et dans la même question, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez lu le livre d'Orlando Figes, qui est un historien britannique, je crois, en fait, sur la Révolution russe, qui... Il en a fait un folio histoire, deux gros volumes sur la Révolution russe. Très intéressant, parce que, justement, il arrive à marier assez bien une histoire générale de la Révolution russe avec parfois des passages qui ressemblent à de la micro-histoire. C'est vraiment tout à fait intéressant.
Alors, il y a deux questions. D'abord, le souci, je crois qu'on est tous embarqués dans le même bateau, hein, et que le souci, il a deux faces. C'est le souci pour la culture en général, hein, qui est un souci qu'on a de tous les côtés, hein, qui est le souci pour l'école, le souci pour la culture, et le souci pour nos métiers spécifiques. Alors, pour la question des archives, oui, on a vu se construire dans les 10 dernières années un très grand nombre de bâtiments d'archives départementales. Et toute une partie des public, ce qui n'était pas prévu, a disparu. Et notamment les publics des généalogistes, qui n'avaient d'ailleurs rien à faire aux archives. C'est-à-dire que c'est pas un public, c'est un public qui va aux archives chercher une information qu'il peut très bien trouver sur Internet. Et à l'heure actuelle, là, j'ai lu dans le Monde la déclaration de la nouvelle directrice des archives nationales, Agnès Magnin, qui disait qu'on va faire un grand programme de numérisation, notamment des dossiers de naturalisation. Il n'y a aucune raison, enfin, aucun obstacle intellectuel à ce que quelqu'un qui s'intéresse pas à l'histoire, mais qui a le désir légitime de savoir ce qu'il y a dans le dossier de naturalisation de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, n'ait pas un accès sur Internet facile à ces dossiers. Donc ça, c'est un progrès. Mais pour le reste, c'est vrai que ça menace à la fois la façon de travailler et les métiers qui sont liés à tout ça. Et moi, je vois bien, même en n'étant pas de la génération qui a grandi avec tout ça, je vois bien qu'il y a que sur un certain nombre de choses, on travaille autrement. Un de mes collègues me faisait remarquer la chose suivante, juste un petit détail. Quand on est au CNRS, on a un accès gratuit aux revues qui sont sur Cairn. Bon. Ça veut dire que de chez soi, on peut accéder aux revues et imprimer les articles, les lire sur le net ou les imprimer. Il me disait, tu vois, si l'article de revue n'est pas sur Cairn, on va avoir la flemme d'aller le chercher. Avant, la question ne se posait pas. On avait besoin d'une revue, on cherchait la bibliothèque la plus commode. Ça a toujours été galère de travailler à la... Enfin, dans l'ancienne Bibliothèque nationale, c'était vraiment très compliqué de travailler. Hein. Le livre était sorti, le livre était à la relire, ça faisait 2 heures, on faisait la queue pour avoir une place. Donc, moi, je préférais à l'époque prendre le RER et aller à la BDIC. Mais, quand vous aviez besoin d'une revue, vous cherchiez une bibliothèque pour avoir... les revues ou un centre d'archives. Aujourd'hui, vous pouvez très bien trier ce que vous allez voir en fonction de ce qui est facilement accessible. C'est aussi un changement des façons de travailler. Alors pour le livre, est-ce que le livre électronique, ça j'en sais trop rien. Mais je sais qu'un des dangers, c'est le fait de pouvoir fabriquer du livre. C'est aussi fabriquer du livre sans le filtre de la chaîne du livre. Je vais vous donner un exemple de cela. Il y a une fondation qui s'appelle Fondation pour la mémoire de la Shoah, dont le capital a été abondé par l'argent issu des spoliations des biens des juifs pendant la guerre. Et qui estime qu'il y a une sorte de devoir, et je partage cette position, de publier les témoignages des survivants de la déportation, quelle que soit leur valeur littéraire, et quelle que soit, et si s'ils ne sont pas trop... trop délirant par rapport à ce que l'on peut considérer comme étant les écarts acceptables d'un témoignage par rapport à ce qu'on perçoit de la vérité. Comment les publier? Aucun éditeur ne va publier ces témoignages, parce que la chaîne d'un éditeur, elle est très simple. Elle va de la fabrication au libraire. Et s'il manque un échelon de la chaîne, c'est pas un livre au sens où on l'entend. Donc, la Fondation Voir de la Shoah a traité avec manuscrit.com. Je ne sais pas si vous connaissez manuscrit.com. Ça signifie que le travail est fait en interne à la Fondation. Il y a quelqu'un qui travaille, qui met le manuscrit en forme, qui corrige les scories, qui éventuellement demande à quelqu'un de faire un appareil de notes, et ensuite ça passe à manuscrit. Ça signifie qu'on peut en tirer, disons, 100 qui sont distribués dans un certain nombre de centres de documentation. La personne a son livre et elle peut le distribuer à sa famille. C'est un cas particulier. Et ce cas-là, il se multiplie à l'infini. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va appeler un livre? Est-ce que n'importe qui avec un PAO met un livre sur Internet, est-ce qu'il a fait un livre? Quels vont être les critères qui vont permettre de distinguer un roman à compte d'auteur, ce qui était très bien distingué par la pensée universelle dans le temps, et voilà. Et là, vous avez quand même une inflation de titres. En histoire aussi. C'est-à-dire que vous, quelqu'un qui n'aurait pas pu publier sa thèse aujourd'hui peut trouver quelqu'un qui la lui publie, parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Les coûts n'ont rien à voir. Si vous n'avez pas de composition, de mise en page, vous avez quoi, le coût du papier? C'est tout. Donc là, on est menacé par la même chose que l'angoisse d'Internet, qui est là, une marée aussi dans le livre. Alors ce qui est encourageant, c'est que tout le monde ait envie d'un livre, d'un vrai livre. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas envie d'un fichier Internet, ils ont envie d'un livre. Les hommes politiques, ils ont envie d'un livre. Donc ça, c'est encourageant, ça veut dire que ça a encore une valeur.
Oui, je pense qu'en fait, ça, enfin, de tout ce que vous avez pu dire, il me semble que malgré tout, ça, il y a de vraies angoisses et de vraies tensions, et en particulier sur le plan politique. En effet, quand je relisais les actes de ce colloque, on parle d'Hiroshima et aujourd'hui le Japon, on parle du Rwanda et aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Il manque cette épaisseur politique. Mais en même temps, je pense que ça résiste. Que les historiens n'ont pas disparu, pas plus que les bibliothécaires et les conservateurs. Et que la question du livre qu'on avait enterré il y a déjà une dizaine d'années, au fond, elle n'est pas... Il résiste aussi. La place de l'éditeur résiste aussi.
Absolument. Alors,
évidemment que la question de la, diffusion, de la diffusion sous forme électronique, on nous en rebat les oreilles. Et en effet, comme vous le disiez, parfois en table ronde, on a des propos qui sont quand même un peu excessifs. Mais je pense que il me semble qu'on est moins dans l'anxiété qu'on a pu l'être, ne serait-ce qu'il y a 3 ou 4 ans. Et je reprends un exemple qui est un tout petit peu à part, mais quand même pas complètement. J'ai lu dans Le Monde il y a quelques jours débat sur les voyages scolaires à Auschwitz.
Oui.
Ces questions-là, où, au fond, personne ne se posait vraiment les questions. Il fallait emmener parce que comme vous le disiez, la question des repères. Alors, il y avait à la fois la question de l'acte, mais aussi le repère dans le temps, à quel moment, comment ça se situe par rapport à Louis XIV. Enfin, c'est à peine excessif. Aujourd'hui, ces questions sont réellement posées. Et les professeurs s'interrogent, sont plus aussi persuadés du fait d'aller passer une journée suffit pour...
Absolument.
Pour restituer cette mémoire à des cohortes d'élèves qui sont un peu parfois défaillants. Quoi.
Et je crois que l'angoisse, elle était très très bien exprimée par le jeune directeur du musée d'Auschwitz, jeune parce qu'il n'a pas 40 ans, qui s'appelle Piotr Siwiński, qui est un Polonais. Il disait qu'à l'heure actuelle, la majorité des visiteurs a des grands-parents qui n'ont pas connu la guerre, comme Émile, comme mon petit-fils qui est ici. C'est-à-dire que les enfants, la génération des enfants actuels est une génération d'enfants dont les grands-parents sont nés après la guerre. Ça veut dire que le contact direct qu'ils ont pu avoir avec des récits tout à fait informels, hein, qui pouvaient toucher aux restrictions, à n'importe quoi, et que tout Européen a eu, c'est terminé. Donc, par rapport à la guerre et par rapport à toutes ces choses-là, on est dans quelque chose de nouveau. Et on peut dire aussi qu'en France, bon, c'est une bénédiction, hein, entre la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, certes, il y a eu l'Indochine, qui a quand même été une guerre... il n'y a pas eu le contingent, donc qui n'a pas concerné la totalité des Français. Il y a eu l'Algérie, qui a concerné une classe d'âge, mais qui n'a pas concerné directement l'ensemble des Français. Et en droit de ça, on est en paix. Ça veut dire que même l'imagination qu'on peut avoir de ce que veut dire une situation de guerre est quelque chose qui passe aujourd'hui uniquement par le livre, le cinéma, enfin par ces choses-là. C'est aussi des grands changements.
Et aussi la littérature.
Et la littérature.
Bien, je vous propose de laisser la dernière question à Émile. Vous avez bien une dernière question à poser, non? C'est pas quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'on mange? Merci en tout cas de votre intervention, de votre présence ici.
Vraiment,
je trouve que ce sont des véritables interrogations, des angoisses que nous partageons et qui, au fond, petit à petit, nous font cheminer vers des chemins sans doute un peu plus sûrs ou éclairés, quand même.
Oui, puis je pense que les choses vont se décanter aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coups, enfin bon. Ce qui s'est passé aux Archives nationales avec l'installation du musée de l'histoire de France. Ça veut dire qu'on a parfois le sentiment en ce moment que les coups sont constants. Quoi. Et qu'on est obligé de. Et qu'on n'est plus dans quelque chose. On ne se bat pas pour, on se bat pour empêcher que les choses se dégradent, quoi.
Merci.